François Gagnon est avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour, François.
Bonjour, Paul. Bonjour à l'équipe.
Oui, oui, oui. Beaucoup de choses à discuter.
Salut, François.
Pas vraiment des très beaux chiffres cette semaine qui ont été publiés,
non.
Mais on va y aller un à la fois. D'abord et avant tout pour parler de l'échéance du programme controversé d'aide aux loyers commerciaux.
De tous les programmes, Paul, que le gouvernement fédéral a inventé pendant la pandémie, ça a été le pire.
Explique-nous pourquoi, là.
Le pire, parce qu'il n'est pas utilisé, parce qu'il n'était pas restrictif. Dans le sens où, oui, on incitait les propriétaires, parce qu'au début, là, personne ne comprenait le programme, mais c'était à l'initiative du propriétaire de l'établissement, c'est-à-dire celui qui détenait donc le local, non pas le locataire, mais celui qui était propriétaire, qui devait initier donc la demande auprès de la SCHL pour obtenir la subvention pour le loyer commercial. On payait jusqu'à 50% de la part du gouvernement, 25% venait du locataire et le propriétaire lui abandonnait donc 25%. Ça a pas marché. Il y a 1 200 000 PME, donc des entreprises de moins de 100 employés au pays. Il y en a à peine 160 000 qui en ont bénéficié. Pourquoi? Parce que les propriétaires disaient non, ça m'intéresse pas.
Ils voulaient pas participer à hauteur de 25%.
Tout à fait. Et il y avait un projet de loi, le projet de loi 61 au Québec qui aurait empêché justement les propriétaires de faire des évictions pendant la crise. Et le gouvernement, lui, était prêt même à mettre 25% du montant, le gouvernement du Québec. Mais tu sais, le projet de loi 61, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un projet de loi fourre-tout, là, c'était plus un bill omnibus que d'autres choses, là. Alors donc, c'est mort au feuilleton. Puis malheureusement, le 25% qui a peut-être incité ici au Québec à venir en aide plus spécifiquement aux PME, ben ça a été abandonné. Alors donc, c'est un programme qui a pas marché. C'est un programme qui a coûté jusqu'à maintenant 600 millions de dollars. C'est 600 millions, mais c'est pas beaucoup, là.
Non, je comprends par rapport au reste, mais c'est quand même 600 millions de dollars qui n'ont pas servi à grand-chose.
Non, tout à fait, et ça a servi à quelques-uns seulement, parce qu'il y avait des propriétaires qui se disaient « Bon, ben moi, j'embarque dans la galère », alors que la majorité d'entre eux, on se dit « Ah, possibilité de pouvoir recouvrer 100%, je veux rien savoir de ça ». Alors, ça met en péril des très petites entreprises. Je pense aux restaurateurs, principalement. Cette semaine, il y avait un cri du cœur de la part de l'Association des restaurateurs qui disait « Si rien n'est fait, 60% des restaurants à travers le pays vont disparaître ».
Et je t'arrête un instant pour te dire que demain, à notre émission, nous allons faire le point là-dessus. La restauration, on l'a fait dans le passé, mais là, vraiment, on a une idée plus précise de leurs problèmes majeurs, François. On savait que l'automne allait être la période critique pour savoir comment ça allait se passer. Et on voit que les entreprises sont en train de se retrouver de nouvelles façons de connecter avec les clients. Mais demain, on va aborder ça à notre émission.
Mais tu sais, qu'il y a eu quand même 800 000 pertes d'emplois dans ce secteur-là.
800 000?
C'est loin d'être recouvré. Et t'as deux secteurs là qui vont avoir besoin d'aide et rapidement. C'est le secteur de la restauration au pays, mais le secteur des transports. T'as parlé tantôt d'ADM, là, de l'aéroport de Montréal. Une centaine d'employés temporaires qui ont été mis à pied. On veut pas embarquer dans la subvention salariale pour la prolongation jusqu'au mois de décembre pour ces employés-là parce que ça coûte trop cher. Alors, on va perdre 500 millions de dollars et il n'y a pas de programme spécifique encore qui est né pour tout le transport aérien, que ce soit les aéroports ou encore...
Ben parce qu'on ne sait pas où on s'en va, c'est le cas de le dire.
Non. Et là, on n'attend pas de réouvrir. T'sais, regarde, on a prolongé encore une fois la fermeture des frontières avec les Américains là, d'un mois de plus et on ne s'attend pas avec les restrictions de retour de voyage au pays avec le fameux 14 jours ou encore maintenant 10 jours ici au Québec.
Ben, ce ne sera pas 10 jours. Si tu reviens de l'étranger, c'est encore 14.
Ah, c'est encore 14
ouais,
jours.
Bon, c'est, ben, ça s'applique seulement à des gens qui ont eu la COVID et qui doivent récupérer, évidemment, être en isolement, mais pour 10 jours. Mais si tu prends l'avion demain et puis que tu rentres au pays, tu as 14 jours chez toi.
Et tu vois pas de reprise du secteur aérien avant au moins minimum le deuxième trimestre de 2021. Ça nous mène au mois d'avril.
Ouais, mais là, tu es optimiste parce qu'il y a un représentant de l'IATA qui est une grande organisation.
Il voit ça 2 ans, lui, minimum.
Il voit ça 2024.
Ben oui, tout à fait. Alors, mais là, on parle d'une reprise graduelle. Là, on voit rien. Là, il garde des avions. Là. Tu connais ça, toi, comme moi. C'est pas le temps d'aller se mettre sur le bord de la 24 droite.
Non,
pour voir des avions arriver, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus d'oiseaux que d'avions en ce moment.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, tout ça, là, tout ce qu'on est en train de dire, on s'y attendait un peu, et ça a été confirmé cette semaine, le plongeon record de l'économie canadienne au deuxième trimestre.
38% de baisse sur une base annualisée. Tout ça à cause du mois d'avril, parce que mai, juin, et si on fait une extrapolation pour le mois de juillet, il y a une reprise. Mais comme je te le disais tantôt, c'est pas tous les secteurs qui sont en reprise. Restauration, certains services, et bien sûr, dans tout ce qui s'appelle transport, qui s'appelle transport aérien, par autobus, par train, ça marche pas. Les gens veulent pas embarquer dans le transport en commun. On le voit ici à Montréal, les autobus sont quasiment vides. Ouais. On le voit également dans le métro, on le voit un peu partout. Et ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour une reprise économique, ces secteurs-là. Et t'as le gouvernement fédéral qui, cette semaine, a annoncé son déficit pour les trois mois, là, les trois premiers mois de l'année. Écoute, l'année passée, on avait perdu 84 millions. Et cette année, pour avril, 84, mai, juin,
oui.
Millions.
Oui, 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 millions. Pas milliards. Oui, oui, millions. Millions. On était en bas du milliard.
Ben oui, en 2019, là, cette année, et on était loin du milliard. Là. 84 millions, c'est en bas de 100 millions.
Ben oui, et cette année, c'est
120,4 milliards de dollars. Et là, ça commence à mettre les agences de notation un petit peu nerveuses. Je pense à Fitch qui ont été rapides sur la gâchette il y a un mois et demi à peine en se disant, bon, ben regarde, je regarde l'état de l'économie, j'abaisse la cote de crédit de 3A à double A. Et là, on se dit que la force de la pandémie et surtout le déficit du gouvernement fédéral nous amène à un ratio qui est beaucoup trop élevé. Et je pense qu'il est en train de nous préparer pour une autre décote, là, ou encore mettre la dette du Canada sous surveillance.
Bon, ça c'est une chose. Mais pour revenir brièvement aux résultats de l'économie canadienne au deuxième trimestre, c'est vrai que ce chiffre-là, ce taux annualisé de 38,7% est effrayant, de l'effondrement, de la contraction du produit intérieur brut. Mais François, on peut avoir un peu d'optimisme et dire que le troisième trimestre lui devrait être nettement meilleur.
Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a reprise, là, on le voit là, à partir du mois de juin, là, où ça avait grimpé quand même de plus de 10%. Il y a également ce qui est à surveiller grâce à la PCU. On a critiqué beaucoup la PCU, là, mais même s'il y a eu une baisse de la rémunération totale de presque 10%, eh bien, grâce à la PCU, ben les revenus des ménages ont quand même augmenté de 11%. Alors donc, ça laissait de la place pour dépenser un peu. Le secteur de la vente au détail a augmenté, même si dans les centres commerciaux, ça semble pas être au summum, là, malheureusement. Les gens ont quand même continué de dépenser, que ce soit le secteur de l'automobile. Tous les secteurs ont augmenté, sauf deux. Ce sont les vêtements, puis là, je me souviens pas lesquels. Là. Et au point où on est en hausse par rapport avant la pandémie. Donc, les gens ont continué de dépenser. Mais, tu sais, quand tu regardes le mois de juillet, là, on parle de 3%. Là, ça va commencer à rapetisser un petit peu les hausses, là. Et parce que là, tu vas avoir rattrapé une bonne partie de ton économie, mais il en reste encore plusieurs.
Ouais, puis il y avait une certaine euphorie de l'arrivée de l'été et du déconfinement et de la réouverture. Maintenant, cette euphorie va passer. Oui. C'est l'automne qui va être véritablement notre baromètre, là, qui va donner la direction à prendre dans les prochains mois.
Tout dépend de ce qui va se passer encore une fois avec la pandémie. Est-ce qu'il y aura une recrudescence des cas de COVID? Est-ce qu'il y aura une recrudescence des décès, malheureusement? Ou si ça va s'amenuiser, comme ça semble le cas pour l'instant ici au Québec et en Ontario.
Ouais.
Mais il en demeure pas moins que tu pourras pas tenir ton économie à bout de bras strictement avec ta construction.
Ben non,
là.
Ben non,
t'as la construction résidentielle qui achève.
Oui, hein? Mais c'est bon à savoir qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Dans la construction, on recherche 20 000...
Beaucoup d'électriciens.
Ben, des électriciens. Beaucoup de spécialistes. Mais 20 000 jobs sont offerts en construction en ce moment.
Tout à fait. Alors, il manque de main-d'œuvre un petit peu partout, mais il y a d'autres endroits où il y en a trop.
Il manque de couturières. C'est ce que nous dit le Journal de Montréal dans sa liste des 100 emplois d'avenir. Et on parle d'avenir à court terme. On a besoin de 1 500 couturières. Demander pour recycler peut-être des vieux vêtements.
Oui, puis on manque beaucoup de gens dans les champs. Je sais pas si t'as remarqué dans...
Il n'y en a pas! Et c'est pour ça...
Hey, j'ai vu un champ de
choux. Il n'y en a pas!
J'ai vu un champ de choux qui est en train de pourrir ici dans la région de Saint-Joseph-du-Lac.
Là. Écoute, c'est terrible, on en a parlé la semaine dernière, mais François...
Une tristesse, là.
En région, les administrations municipales des régions s'arrachent les cheveux de la tête. Ils disent, on n'a pas de travailleurs. Et partout où tu vas... Dans n'importe quelle municipalité du Québec, en région, à l'extérieur de Montréal, partout dans les vitrines du plus modeste établissement, il y a des emplois qui sont offerts.
Ouais. Recherchons tel employé.
Recherchons.
Nous
embauchons. Oui, temps partiel, temps plein, partout.
Alors, oui, tout à fait. Puis ici, même dans les centres commerciaux, le centre commercial, ici, aussi. Centre commercial à Saint-Eustache, là, il y a plusieurs pancartes dans bien des vitrines que j'ai vues.
Merci François, bonne semaine.
C'est un plaisir.